si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque. En juin et juillet 2023, la Cinémathèque française programmait une sélection d'une trentaine de films documentaires qui ont marqué l'histoire du cinéma. À cette occasion, Pierre Gabaston, auteur de nombreux écrits sur le cinéma, venait s'entretenir avec le public à propos de Nanouk l'Esquimo de Robert Flaherty. Discussion avec Pierre Gabaston, animée par Bernard Benoliel.
Bonjour. Bonjour et bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à Pierre Gabaston, que vous pouvez applaudir. J'aurais souhaité évidemment, mais à la Cinémathèque on le souhaite toujours, que vous soyez encore plus nombreux, donc je vous remercie doublement d'être présent à cette séance. J'avoue que je ne comprends pas, moi, dès qu'il fait chaud, j'aurai le réflexe de venir dans une salle. Vous allez être doublement rafraîchi, d'abord parce qu'il fait bon, et ensuite parce que vous allez voir Nanouk l'Esquimau. Donc, tout ceci va aider à descendre la température corporelle et va nous permettre de voir ou de revoir ensemble un très beau film, un film important historiquement aussi dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la représentation. Un film qui date de 1922, un film muet avec musique, un film qu'on a qualifié a posteriori de documentaire. On reviendra bien sûr avec Pierre sur cette distinction, mais tout de suite, pour ne pas retarder la projection, je vais demander tout simplement à Pierre d'introduire le film. Juste un mot pour vous dire que Pierre Gabaston, bon, c'est pas un mystère de vous dire que Nanouk l'Esquimau est un des films de sa vie. C'est un film sur lequel il a beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Pierre est un essayiste de cinéma, un historien du cinéma qui choisit ses objets. Et ces objets vont de Nanouk l'Esquimau aux aventures du capitaine Wyatt de Raoul Walsh, en passant par Rio Bravo de Howard Hawks ou la 317e section de Schoendorfer. Voilà, des objets élus.
Sierra de Teruel de Malraux aussi.
Et Sierra de Teruel de Malraux. Voilà, ça vous donne une idée de la constellation du bonhomme. Voilà, mais peut-être on aura dans un deuxième temps l'occasion d'en parler avec Pierre après la projection. Ce film-là, Nanouk l'Esquimau, non seulement il l'a vu, je dirais, pour lui-même, par lui-même, chacun pour soi en quelque sorte, mais il l'a aussi vu dans des circonstances particulières, des circonstances éducatives, des circonstances de classe. Il a pu observer aussi, en dehors de lui, ce que ce film produisait sur des enfants. Et peut-être aussi, on pourra évoquer cette expérience qui fut, à sa surprise, mais à son bonheur aussi, une expérience pédagogique. Voilà, pour toutes ces raisons, je laisse Pierre parler. On regarde le film, il a aussi le mérite de durer 50 minutes. Si bien qu'après la projection, pour celles et ceux qui le voudront, nous aurons Pierre et moi et avec vous une discussion. Et même si vous restez, mais il faut rester après le film, Pierre vous expliquera d'où vient l'expression des Esquimaux pour avoir des chocolats glacés au cinéma à l'entracte. Voilà, il y a une raison à ça.
Ne partez pas.
Mais il faudra rester. Pierre, un mot sur le film peut-être.
Mot sur le film. Enfin, tu as fait une excellente présentation, y compris en introduisant mon rapport existentiel avec Nanouk. Ce n'était pas le cas la première fois que je l'ai vu à Chaillot, un samedi après-midi. J'étais tombé sur une mauvaise copie. Donc, c'est une passion d'après-coup. Et tu as raison de faire allusion à mon expérience d'enseignant auprès d'enfants en très grande difficulté familiale et psychologique, parce que c'est eux. Alors, je sais que là, je ne vais pas vous convaincre, mais enfin, bon. Moi, je le sais dans mon secret que ces enfants en grande souffrance, mais intelligents, bien sûr, m'ont fait comprendre ce film. Voilà. Je ne voyais pas l'intérêt de ce film aux deux ou trois premières visions. Mais Maintenant, bon, bien sûr, les années passant, c'est un film qui devient essentiel à ma vie. Je vais mourir avec Nanook, voilà, qui fait partie de mon imaginaire. Ça y est, il m'aide à vivre. Et là, comme j'ai des difficultés à marcher, je ne vais pas me plaindre quand je vois les efforts physiques que les personnages qu'on voit sur l'écran font simplement pour survivre. Voilà. Alors, juste un mot. Donc, le film est sorti le 15 juin 1922, donc à 10 jours près. Il a 101 ans. Sa carrière n'était pas gagnée parce que le jour où il sort, je crois que c'est au Capitole de New York, ben, la salle est mitigée, la critique encore plus mitigée. Personne ne veut distribuer ce film. Et Flaherty fait jouer les relations pour convaincre la maison Pathé et USA de le distribuer en première partie du grand film attendu, donc de Niemeyer, avec Harold Lloyd, qui est le Talisman de grand-mère. Voilà.
Qui était un film comique.
Comique, voilà. Mais bon, l'histoire de ces ironies dont elle a le secret, très vite, évidemment, les rapports commerciaux vont déverser, le film de Niemeyer va tomber dans l'oubli, et surtout lorsqu'il va être distribué en Europe, mais même ailleurs qu'à New York, le film va rencontrer un public, un succès sidérant. Voilà, sidérant, au point que très vite, Nanook n'aura qu'un seul rival sur les écrans, c'est Charlot. Et puis aussi, il faut dire que c'était aussi pour le public de l'époque, et ce n'est pas le cas maintenant pour nous, mais va découvrir, on va dire ce qu'on appelait autrefois des primitifs, une peuplade dont il ignorait même jusqu'à l'existence. Donc c'est un choc, il y a même, enfin dans le film, je vais arrêter là, Flaherty avait certainement prévu ce contact, ce face-à-face, ce nez à nez, puisqu'à un moment donné, c'est un plan qui fait rire les enfants, on va voir le... Nanook, alors il faut dire Nanour, je crois. Bon, Nanook va découper de l'intérieur de l'igloo une porte grande dans la forme d'un carré, va surgir en gros plan et d'un sourire hilar va regarder les salles de cinéma jusqu'à aujourd'hui ici à la Cinémathèque française. Donc là, il y a face à face qui a été d'ailleurs la rencontre de Flaherty. Avec ce monde-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été explorateur, il a été chercheur d'or, il a essayé de, lui aussi, à un moment donné, de trouver le mythique passage du Nord-Ouest, et tout d'un coup, il va découvrir que la peuplade, enfin, ces Inuits, qu'on appelait encore les Esquimaux, eux ont franchi le passage du Nord-Ouest, mais en sens inverse. Voilà. Et là, ça va être une reconsidération géographique, morale, et voilà. Alors, il y a beaucoup d'histoires autour de ce film, on va en parler, et en particulier bon, la relation documentaire-fiction. Bon, moi, je ne vais pas m'épuiser sur ce sujet. Je pense qu'il est totalement stérile. On va voir un film mis en scène par Flaherty. On aurait vu La Comtesse aux pieds nus. Je vous aurais dit mise en scène par Mankiewicz. Voilà. Sauf qu'il y a un peu plus de glace d'un côté que de l'autre. Et voilà. Mais bon, nous ne sommes pas nombreux, mais sur l'écran, ils ne sont pas nombreux non plus.
Parfait, parfait. On est égalité, alors. Voilà. Effectivement, on reviendra après la projection sur l'histoire de ce film, parce que l'histoire du tournage, c'est une histoire aventureuse. C'est l'histoire d'un explorateur qui se découvre cinéaste au fur et à mesure qu'il explore. Et donc, sur tout cela, et évidemment, sur les interrogations que vous pourriez avoir devant le film, comme disait l'autre, mais est-ce que c'est vrai ou qu'est-ce qui est vrai? Et bien, sur tout ça, on reviendra après la projection. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Nanook of the North, Nanook l'Esquimau, 1922. Peut-être qu'en 2023, on ressent et on comprend ou on peut encore éprouver ce qu'a dû être l'étonnement, la sidération, la fascination qu'ont éprouvé les spectateurs de 1922, même si, mais on y reviendra peut-être après, peut-être en 2023, on se pose évidemment sans doute pas les mêmes questions, on ressent pas non plus les mêmes choses par rapport à ce Nord. Mais peut-être, plutôt que de commencer par la fin, commençons par le début. Peut-être tu peux expliquer comment un homme, avec une petite équipe, mais en tout cas presque seul, au début des années 1920, Comment cet homme, Robert Flaherty, qui est-il et surtout, comment se retrouve-t-il dans la situation de faire ce qu'on vient de voir, le film qu'on vient de voir, sachant qu'il n'en est pas à son coup d'essai, voilà. Sachant que c'est le résultat d'un processus. Est-ce que tu peux décrire ce mouvement qui mène au film ?
Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Bon. Juste un mot, je vais revenir. Nous devons remercier la Cinémathèque française de s'être décarcassée pour trouver cette copie. Elle est rare et, à mon avis, c'est la meilleure copie qu'on aura jamais sur Nanook l'Eskimo. Bon, en deux mots, je reprends ta question. Parce qu'à sa sortie, bien sûr, la copie comportait des cartons, des intertitres. Parce qu'il fallait expliquer un peu aux spectateurs qu'est-ce qu'ils regardent. Et à un moment donné, on apprend qui pêche le saumon. Un carton nous expliquait que si on met les traîneaux en dessus de du dôme de l'igloo, c'est pour éviter que les chiens nous bouffent des lanières en phoque, etc., etc. Donc il y avait des informations d'identique. Voilà. Et moi, quand j'ai vu cette copie, je gardais une préférence pour la copie avec les cartons. Je cédais à un petit fétichisme de cinéma d'auteur parce que je savais que la plupart des cartons, et le dernier carton en particulier, avait été rédigé par Flaherty. Il y avait 82 cartons. Alors, le dernier carton, je vais vous le lire. Je ne perds pas ta... Bon. Alors, c'était « Le sifflement du vent et de la neige, les hurlements lugubres du chien de Nanook résument la mélancolie du Grand Nord. » Voilà. Alors là, la mélancolie du Grand Nord, je suis parti tout de suite. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis là... Le rapport fiction-documentaire vole à l'éclat et on a simplement un puissant film romantique. Voilà. Et où l'homme se débat au milieu d'une nature dure, déchaînée, qu'il ignore. Voilà. D'autant plus qu'en plus, enfin, quand on voit ici comme une espèce de miracle romantique qui apparaît, c'est à un moment donné, lorsqu'ils sont à bout de course, la nuit tombe et il tombe sur un igloo abandonné. Donc, la ruine étant bien sûr l'une des figures majeures de toute l'iconographie romantique. Donc maintenant, je trouve que enfin, les cartons compressaient le film, compressaient Nanook. Et cette copie, sans les cartons, aère, dégage et donne toute l'énergie au personnage. Je pense que maintenant, le film a trouvé sa respiration, peut-être sa musique. C'est deux Belges qui ont... commencer par faire des ciné-concerts et concevoir cette musique, Christian Leroy et Philippe Sausset, je crois que c'est piano, percussion et hautbois, clarinette. Voilà. Là, je pense que Nanook retrouve sa force vitale. Avant, il était enfermé dans le carcan des carcans. Je pense que là, ça, c'est tout à fait autre chose. Il y a une respiration qui était nécessaire au souffle que voulait donner Flaherty. Alors, Flaherty, donc, comme son nom l'indique, du sang irlandais qui coule dans ses veines. Hein. C'est son grand-père qui est arrivé au nord du Canada, au sud du Canada, pour travailler dans les minerais de fer. Le père a continué cette activité. Et puis, petit à petit, Bob Flaherty, petit-fils et fils, aussi a commencé à être intéressé par les travaux, les recherches du père. Et un jour qu'il accompagne son père, il a été mis au contact de certains Indiens du sud du Canada, etc. Donc, il n'était pas brillant. On a essayé de lui faire des études de minéralogie à Chicago, mais enfin, ça n'a pas marché. Cela dit, ça peut être inutile, puisque c'est là qu'il rencontre sa femme, Frances Valerty, avec laquelle il va former un couple éternel dans l'histoire du cinéma. Je ne vois qu'un autre couple qui puisse se lui être comparé, c'est Daniel Lillet et Jean-Marie Straub. Enfin, voilà. Donc, et là, il va, à partir de 1910 jusqu'en 1916, il va se lancer dans 6 expéditions pour aller vers le Grand Nord. Il va être explorateur, chercheur d'or, extracteur de minerais, etc. Il va redécouvrir, même au centre de la baie d'Hudson, l'archipel des îles Belchères, dont on ne savait plus si elles existaient ou pas, si c'était un mythe. Et donc aujourd'hui, le plus grand île de cet archipel porte le nom de l'île Flaherty. Voilà. Mais au cours de la deuxième ou troisième expédition, il a l'idée d'emporter avec lui une caméra parce qu'il veut filmer tout ce qu'il voit, c'est-à-dire les Esquimaux. Alors on verra après les animaux, les troupeaux de rennes, etc. Voilà, les paysages, la glace, voilà. Et il, sur deux expéditions, il va revenir avec des milliers et des milliers de mètres pellicule, enfin sa caméra avale tout ce qu'il voit, il est frénétique, etc. Et il va faire un premier montage sur son port d'attache, enfin là où il commençait à travailler, c'était à Toronto. Et malencontreusement, au cours du premier montage, il laisse tomber sa cigarette qui fout le feu au négatif. Voilà, il se prit le bras, enfin bon, bref, c'est la catastrophe. Mais il avait malgré tout sauvé un petit montage en positif. Mais à l'époque, on ne pouvait pas contre-typer les films. Mais enfin, il y avait ça. Il avait gardé ça, plus quelques lambeaux de négatifs, etc. Alors, il a réussi à faire un petit montage. Il n'était pas très satisfait, qu'il va présenter à des sociétés savantes à New York, 7 ou 8 projections. Et là, il est fort dépité parce qu'il s'aperçoit que son film n'intéresse absolument personne. On lui pose des questions sur lui, sur son aventure. La question que lui pose, c'est-à-dire comment est-il arrivé là ? Comment a-t-il rencontré ces Esquimaux, etc. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il n'a qu'une idée, c'est prendre sa revanche, c'est de repartir dans le Grand Nord pour faire un nouveau film en réfléchissant autrement à ce que pourra être ce film. Seulement, à ce moment-là, on doit être à peu près en 17-18. Voilà. Hein, donc, 1910-1916, donc, le temps qu'il monte son film, 16-17-18, par là. Mais son projet n'intéresse absolument personne parce que les États-Unis viennent d'entrer en guerre et donc il ne trouve aucun capitaux pour financer son tournage qui sera très certainement très long.
Mais, je te coupe d'un mot pour compléter. À propos de la projection dont tu parles qui n'a intéressé personne, voilà ce que Flaherty en dit. Oui. Tu le cites dans ton article qui était paru dans Trafic, la revue Trafic numéro 97. Voilà, je vous en cite un tout petit bout. Il dit, donc il parle des spectateurs, les gens étaient polis, mais je vis que ce qui les intéressait dans le film, donc ce petit montage Sauver des flammes, c'était de voir où j'étais allé et ce que moi j'avais fait. Et ce n'était pas du tout ce que je désirais. Je voulais leur montrer les Esquimaux, et je ne voulais pas les leur montrer du point de vue des gens civilisés, mais tels qu'eux-mêmes ils se voient. Je me rendis compte qu'il fallait travailler d'une façon complètement différente.
Voilà. Tel que même il se voit. Voilà. Là, c'est le mot clé, l'expression clé, qui va changer complètement le regard de Flaherty, non seulement sur les Esquimaux, mais plus généralement sur son cinéma. Là, déjà, on avance sur la méthode Flaherty. Donc, il y a un miracle qui se produit. Un jour, en marchant à New York, il rongeait son frein, il croise un type qui l'aborde, et qui dit, voilà, moi, je m'appelle Thierry Mallet. Et je vous reconnais parce que j'étais là, j'ai assisté à l'une de vos projections, et ma foi, votre film m'avait intéressé. Et ici, je représente à New York la maison Révillon Frère, qui fait le commerce des fourrures avec les peaux d'ours et de renards dans le Nord. Écoutez, si vous voulez, moi je vous finance le film. Je vous finance le film, et puis voilà, la maison vous l'indiquerez, et puis voilà, ça sera un film peut-être publicitaire pour la Révillon Frère, etc. Voilà comment Flaherty repart avec un commanditaire, donc ce Thierry Mallet, la maison française Révillon Frères, et qui d'ailleurs va donner l'entière liberté à Flaherty de concevoir son film. Hein. C'est, évidemment, ce film n'a pas de scénario. Hein. Flaherty sera un ennemi de scénario. Il y aura peut-être qu'en 1948, lorsqu'il tourne Louisiana la story, s'il y a une espèce de continuité, comme on appelle, qui a été demandé par la Standard Oil qui est le commanditaire de ce film, le dernier film, sinon il est archi libre de faire ce qu'il veut. Alors il repart, il va commencer le tournage, donc je crois que c'est le 15 août, voilà. 15 août, je crois que c'est 1919, par là. Pendant 15 mois, il va tourner des milliers de rushs, voilà. Simplement, il a tout reconsidéré. Et il va aborder différemment son tournage. C'est-à-dire qu'il va opérer ce qu'on peut considérer comme une véritable révolution copernicienne. Avant, le premier film, c'est qu'il était séduit par ce qu'il voyait. Il voyait un lac, il voyait un indien, il voyait un paysage. Et il se précipitait parce que le centre d'intérêt était donc ce paysage-là. Il filmait touristiquement. À partir de là, il a compris qu'il allait faire le contraire. C'est-à-dire que le cœur de son travail, ce n'est plus l'Esquimau, ce n'est plus le phoque, c'est sa caméra. Voilà. Sa caméra et son mystère. Voilà. Alors, juste en mots, je vais terminer, parce que ça n'a pas longtemps, mais On peut se demander, au fond, qu'est-ce qu'il a fabriqué, Flaherty, pendant ces années où il faisait rien, quoi, où il ne tournait pas à New York. Alors, au jour le jour, on s'en moque. Mais le film nous donne la réponse. Du premier au dernier plan. Il a fait ce qu'il n'avait jamais fait, au fond. Mais il est au cinéma. Voilà. Peut-être qu'il a vu deux, trois films à Chicago. Seulement, quand il va voir les films, ça, j'en suis sûr, alors, il n'a pas besoin de l'interviewer, il le fait comme, au fond, certains critiques des cahiers dans les années 50 le feront, en sachant qu'il s'apprête à tourner un film. Donc, il va regarder, non pas le pourquoi du film, mais le comment c'est fait. Et là, il va, de manière didactique, apprendre à mettre en scène un film. Là, ça me frappe, là, à l'instant, sortant de cette projection, c'est déjà comment la maîtrise qu'il a et qui fait partie du béaba d'une mise en scène, au fond, mais on l'oublie, on n'y pense pas. C'est une mise en scène, c'est d'abord un rapport de distance entre la caméra et l'objet filmé, ou le sujet qui filme. Et c'est cette distance entre caméra et ce qui filme, ici, je trouve, est magistralement maîtrisée. On voit de loin ce qu'il faut voir de loin, on voit de près ce qu'il faut voir de près. Il a parfaitement introduit, sans le crier sur les toits, l'attente ou le désir du spectateur de ce qu'il veut voir ou pas voir. Et déjà, ce travail de distance, c'est ce qui va aussi organiser tout son travail de montage. Mais au départ, il va commencer par filmer voilà, de la pellicule. Voilà. Et après, pardon, on va juste... Ce qu'il faisait aussi, ça, on le sait par sa femme qui a été là, enfin, une première témoin, elle était tout à l'heure tout le temps, mais enfin bon, il va s'acharner à regarder tout ce qu'il a enregistré dans une journée. Moins tous les deux jours. Et il prend conscience de ce que peut être son film à partir de ce qu'il voit dans le cadre. Et ce mouvement va être très important.
C'est-à-dire qu'il développe fait les prises, il développe les rushs dans des conditions qu'on peut imaginer sur place.
Inhumaine.
Il amène ce qu'il faut pour faire tirage, développement.
Tout à fait.
Pré-montage, et il montre.
Voilà.
Il montre là où ils en sont.
Voilà. C'est-à-dire qu'il avait formé deux ou trois Inuits. Quand tu dis qu'il est seul, il était entièrement seul. C'est ce qui a fasciné son fils, son héritier direct, Jean Rouche. Jean Rouche disait pas Flaherty était seul. Il criait, il était seul. Vous ne vous rendez pas compte, il était seul. Et c'est vrai, avec deux ou trois assistants qui sont des Inuits. Il les a formés pour d'abord creuser dans la glace, non, l'eau que vous me ramenez n'est pas bonne. Creusez plus profond. Non, pas encore. Elle n'est pas assez pure. Qu'est-ce que c'est ça? Vous me vantez de l'eau avec la poêle de daim de votre peluche. Non. Donc, ils ont appris à développer, à tirer, et il avait amené une projecteur. Voilà. Et là, il regardait, il commençait à prendre conscience, petit à petit, de ce qu'il pouvait faire de son film. Il pouvait faire un film original. Voilà. Parce qu'il dit, voilà, je suis devant des humains originaux. Alors, on va voir comment, petit à petit, il a pris conscience de son originalité du film, en 1920. Comment il va repousser deux pôles, enfin deux écoles, on va dire, vigoureusement. Bon, Flaherty, c'est une grande gueule, c'est une tête brûlée. Je pense que c'est lui qu'on voit, le grand blond, là. C'est pour avoir, entre 10 et 16, fait 5 ou 6 expéditions dans les conditions dans lesquelles il était, revenu, reparti pour faire un film, il faut savoir que si Flaherty n'avait pas été doté de qualités humaines herculéennes, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de Flaherty. Voilà, ça, c'est clair et net.
Alors, c'est d'autant plus vrai que le film aurait dû se terminer par une chasse à l'ours.
Oui.
Tu pourrais, si tu veux, raconter,
oui, raconter
le détail. Mais une chasse à l'ours qui a duré longtemps, qui a été infructueuse, mais dans laquelle Flaherty s'est physiquement investi.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire qu'il avait aussi la capacité à supporter le tournage qu'il imposait aux autres et qui, pour la plupart, constituait leur élément naturel. Je voudrais quand même revenir d'un point, parce que là, tu parles de la mise en scène. Mais juste un mot sur la caméra. Parce que tu dis, et tu as raison de dire, qu'à un moment d'inactivité, il a vu des films au cinéma, et il les a vus à la fois en spectateur et en cinéaste, enfin en futur cinéaste.
Et il a c'est-à-dire vu que... et les meilleurs.
Et les meilleurs, c'est-à-dire qu'il fait...
Ça c'est sûr, c'est là.
C'est pas au moment où Orson Welles doit réaliser Citizen Kane, il voit Stagecoach de John Ford plusieurs fois, et il le regarde pour comprendre comment l'autre a fait, voilà, et pour pouvoir faire lui son film, c'est-à-dire tout il regarde fait comment c'est fait.
Bon. En deux mots,
mais aussi, et en deux mots pour que toi tu puisses repartir de là, c'est que aussi Flaherty emmène une certaine caméra avec lui,
oui,
qui a certaines propriétés.
Je vais l'en parler.
Voilà.
Alors la caméra, c'est une caméra à clé, A-K-E-L-Y. Il avait choisi, parce que d'abord, il consommait très peu de graisse à l'intérieur du mécanisme. Donc, il s'était dit, moins de graisse, moins de risque de gel de graisse. Et puis surtout, elle était posée sur un trépied qui lui permettait de faire des mouvements giratoires, et en particulier des panoramiques. Voilà. Latéraux et ascendants ou descendants. Et il ne s'en prive pas. Hein. Il ne s'en prive pas si on regarde, on va en reparler un mot, là, mettons toute la séquence de la pêche au saumon, il y a On ne les voit pas parce qu'on reste de toute façon dans une économie stylistique très classique, austère et même puritaine. Après lui, il n'y a plus que Ox de puritain comme lui. Donc, il y a beaucoup de panoramiques qui accompagnent le déplacement de Nanook. Je pense que quand il ressort le saumon, il y a sur deux plans, mais enfin, il y a un panoramique ascendant, etc. Donc, il y a un mouvement de la caméra qui épouse la déambulation, la danse presque ici, le rythme mesuré de Nanook sur la glace. Alors cette caméra, elle était actionnée par une manivelle et qui faisait marcher un moteur électrique qui avait une autonomie de 5 minutes. Voilà. Simplement sa caméra, là ils ont eu 1000 problèmes. Hein. Je vais y revenir, je pense à l'ours, parce que très souvent tout était parfait, bravo. Mais on s'aperçoit que le film a éclaté en 1000 morceaux dans la boîte. Ouais. Il fallait changer, etc. Ou que le peu de graisse qu'il y avait prenait en gelée. Donc il fallait tout nettoyer. Ça prenait un temps énorme de tout nettoyer. Donc il fallait rentrer, s'abriter, etc. Donc les conditions de tournage ont été des conditions hallucinantes. Je veux dire, si Flaherty n'était pas ce qu'il a été, c'est une espèce de fou, quoi. Ça n'aurait pas été possible. Alors, je revenir sur les rushs et après je reviens à la chasse à l'ours parce que là, il s'est passé quelque chose de... Enfin, je ne sais pas si c'est d'inédit. En tout cas, sans qu'il le sache, il y a un enjeu ethnographique colossal qui va impressionner les ethnographes ou ethnologues à la suite de la Flaherty. C'est que tous les deux jours, les rushs étaient projetés en présence de Nanook et de sa famille. C'est-à-dire que Nanook contrôlait, se regardait, chassait, pêchait. Et pour Rush, c'est la clé de voûte de l'architecture morale de ce film. Il dit tout s'est joué là. Parce que Flaherty posait des questions à Nanook. Nanook donnait des renseignements à Flaherty. Il ressortait le lendemain. Et ils allaient tourner en fonction de ce que disait aussi Nanook. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange fantastique entre les deux. Je ne sais pas si ça se sent, c'est possible. Mais grâce à cette méthode et à un point de vue qu'on va dire après, le regard fondateur du film, jamais les Inuits n'ont autant été les Inuits qu'avec Nanook. Mais en retour, peut-être que Flaherty n'a jamais été autant Flaherty qu'avec Nanook l'Eskimo. Ça, c'est ça, pour Rush, c'est vraiment la dimension essentielle, fondamentale, morale, qui a permis ce tournage et qui va reprendre aussi, hein, dans Moi en noir, etc. Ça va donner la naissance aussi avec Moreno, du sociodrame, par exemple, et beaucoup du sociodrame. Et beaucoup d'ethnographes, ethnologues vont travailler en Afrique et des jeux de rôle à partir justement avec cette idée de projeter des rushs et d'échanger avec la personne filmée. Donc là, la séance de rush, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui se joue.
C'est une forme de participation.
Exactement, c'est le mot. Et d'ailleurs, dans les années 60, je crois qu'un ethnologue a parlé de méthode participante, mais je crois qu'il y a Luc de Hoche, qui est un Belge, un ethnographe belge, a parlé de la caméra de Flaherty comme une caméra participante. Et ça, Rush, ça y est, il a compris. À partir de maintenant, la caméra n'est pas extérieure au sujet filmé. La caméra entre dans la danse. Elle entre dans le mouvement même de ce que Flaherty filme. Si on regarde 1950, Le film de Saint-Quentin de Roche là, sur les maîtres fous. Les maîtres fous, c'est pareil.
C'est un peu plus tardif.
Voilà. C'est pareil. C'est, à ce moment-là, la caméra de Roche entre dans le jeu. Elle est au cœur même du dispositif. Elle a même provoqué cette séance. Elle est, voilà. C'est le cadre de la caméra qui va jouer. Et je vais dire après comment, à travers le cadre, il a pris conscience peu à peu de ce qui fait la beauté du film et qu'il n'avait pas vu. Ça, je suis sûr. Je vais y revenir. Alors, l'ours. Donc, le film s'appelle Nanook, Nanour. En fait, ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom d'acteur, puisqu'il s'appelait, je ne retiens pas le nom de Nanook. Le clou du film aurait dû être la chasse à l'ours. Hein, puisque dans ce film, on a la chasse aux phoques, aux morses, la pêche au saumon. On a donc tous les éléments.
Le renard
polaire, merci. Toutes les chasses et pêches qui composent la vie des Inuits. Seulement, la chasse à l'ours n'a pas pu être tournée, et tu as raison. Ils sont partis à 600 km au nord de leur base de départ. Et ça a duré 2 mois. Ils ont trouvé une ours, des oursons, mais pas l'ours. Alors, est-ce qu'ils ont fait du bruit? Là, je sais que la caméra, la pellicule a claqué dans la caméra, il faut la changer, fait ci, fait là. Donc, là, ils se sont parlé, etc. Donc, l'ours a dû se méfier. Et voilà. Donc, ils n'ont pas trouvé d'ours. Et ils sont revenus. À un moment donné, Nanook a risqué à dire, bon, peut-être si on continue 15 jours, on pourra peut-être trouver un ours. Et là, Flaherty a pris peur. Il a dit, non, on rentre. C'est fini, j'en peux plus. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand un Esquimau, Robert Flaherty, est tenaillé par la faim dans le Grand Nord, quand il n'en peut plus, donc il a à peu près pas plus de 10 minutes à vivre. C'est 8 minutes en général, 6-7 minutes. Voilà. S'il ne mange pas dans les 6 minutes qui suivent, il tombe mort, raide mort, comme ça, sans inanimé. C'est arrivé d'ailleurs, au retour de cette chasse à l'ours, un copain à Rouche est mort comme ça de faim. Alors il est en nom Whitelock, parce que par ailleurs c'était un très très grand dessinateur d'Esquimaux. Et voilà, il dessinait d'un trait très fin, et je pense que il y a les dessins de ce dessinateur qui est mort qui a influencé les plans larges ici de Nanook, surtout les grands plans d'ensemble où on voit le traîneau et les personnages tout petits en noir, le jeu du noir et du blanc, le contraste du noir et du blanc qui est constant comme souci esthétique qu'il n'avait pas vu au départ évidemment. Donc cette chasse à l'ours a coûté la vie d'un homme, et là il est revenu à peu près découragé. Ils n'ont pas commencé par ça, ils ont commencé par la chasse aux morses. Car Flaherty voulait savoir si Nanook allait tenir le coup du tournage, et il a fait subir l'épreuve de la chasse aux morses d'abord pour voir s'il était capable de... Voilà. Parce que ce n'est pas tout de dire que la caméra est au centre du processus. C'est que très souvent, Nanook ne se rendait pas compte. Il partait tout seul lancer le harpon, et là, Flaherty est désespéré. Arrête, non. Je t'ai pas dit de partir, on te voit pas. Moi, maintenant, je regarde à partir du cadre. On s'en fout du morse. Ce que je veux, c'est le morse dans le cadre. Ce n'est plus pareil. Et Nanook a fini par apprendre à entendre à quel moment il fallait partir, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même aussi... une difficulté rajoutée.
Mais justement, puisque tu parles de Nanook, tu expliques comment Flaherty finalement le dirige comme un acteur.
Tout à fait.
On peut aussi dire un mot de la manière dont, quand tu dis ça a été une révolution copernicienne de la part de Flaherty, comment il a choisi Nanook.
Oui.
Parce que littéralement, il s'est comporté, je dirais, comme un casting director.
Ah, tout à fait.
Il a fait comme pour un film de fiction.
Tout à fait. Il a tout changé. Et il s'est dit, ce qui ne va pas dans ces espèces de ce qu'on appelait les travelogues à l'époque, donc ces espèces de docu-cul des années 50, mais là c'était dans les années 20, il s'est dit, mais les spectateurs, ils n'accrochent sur rien, ils se projettent sur rien. Donc il a dit...
Parce qu'en fait, il filmait dans les films touristiques dont tu parles, les gens étaient filmés indistinctement.
Tout à fait,
indistinctement. Et donc... le spectateur voyait un groupe humain, mais il n'identifiait personne et d'une certaine manière, aucun personnage.
Tout à fait. De même que les animaux, rien ne ressortait, en fait. C'était presque flou. Alors, il a décidé de prendre un noyau narratif et il s'est dit, je vais prendre un sujet qui va émouvoir les spectateurs. Au fond, c'est la famille. Voilà. Avec père, mère et enfant. Maintenant, le père, ce sera le chasseur. Et au lieu de prendre un bon chasseur, on m'a dit que lui est un bon chasseur, on va bien voir. Il a regroupé 10 ou 12 chasseurs qu'on lui a recommandés et il leur a fait passer un casting.
String test.
Et Nanook, donc, ça l'est sorti parce que c'était celui qui, parmi les bons chasseurs, avait la gueule et qui passait le mieux dans l'écran. Voilà. Surtout quand il souriait, voilà. Ou quand il clignait des yeux. Voilà. Et habillé avec cette capuche là, de sa tenue, il était irrésistible pour Flaherty. Donc, c'est toi qui vas t'appeler Nanook. Voilà. Les autres, ouais. Tant pis. Voilà. Après, il lui a associé une femme. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme, qui s'appelle Nila. Là, les rapports deviennent plus confus chez les témoins. Bon, enfin bref, il reconstitue une famille. D'ailleurs, c'est une très belle femme, Nila. Elle a un très beau sourire aussi. Elle passe parfaitement à l'écran. C'est d'ailleurs les deux premiers plans du film. Hein. C'est un premier plan de Nanook, un premier plan de Nila qui se dandine. Hein. Ça, c'est magnifique, hein. Ce rythme, quoi, le rythme éternel. Quoi. Enfin, je veux dire, si on se souvient, enfin, moi, pour la séance d'aujourd'hui, je me souviens que ma mère me prenait dans ses bras et se dandinait comme ça pour m'endormir. Tu vois. Là, il a capté un truc, là. Flaherty, là. Et puis, il a un raccord très doux, parce qu'après, c'est raccord sur un trapline latéral pris d'un bateau, et le bateau tangue légèrement. Donc, le tangage du bateau correspond à la jeune maman qui se dandine. C'est magnifique. Ce rythme, imposer ce rythme au deuxième plan, dans un film sur l'Arctique, avec des sauvages qui bouffent de la viande crue, ça, c'est pas donné d'avance. Je veux dire, ça, c'est pas. Il faut quand même que le Flaherty, il ait quand même pensé son truc. Ça, c'est magnifique, ça.
Mais de la même façon, il y a la scène, pour ne pas l'oublier, la scène sublime où la même femme dans l'igloo fait naître de son dos son enfant et ensuite fait sa toilette avec sa salive. C'est absolument irrésistible, magnifique. Enfin.
C'est une essence, hein, tout simplement. Parce qu'avec Flaherty, il vaut mieux y aller au symbolique que d'emblée. Hein, c'est pas. Ne croyez pas que. Il y a de tous les doubles. L'autre naissance, c'est. Enfin, disons que dès le départ, avec Nila, ça s'appelle, je crois, et tous ces travelling latéraux sur le double. Enfin, il y a à la fois de la banquise et de l'eau. Donc, il va travailler l'élément du dur et du liquide, etc. Donc, il y a ce qui, je le vois encore aujourd'hui, ce qui recouvre le film, c'est qu'il arrive à une sorte d'érotisation générale de la nature. En permanence, grâce au glissement. Déjà, tout est fait sur des glissements, les passements, comme des caresses. C'est le kayak, l'été. On passe ensuite à l'hiver, il y a deux saisons, on a fait ça. En gros, c'est une année chez les Inuits, si vous voulez, un peu comme à Tari, c'est une saison de chasse, mais là, on capture des animaux pour les zoos. Enfin, voilà, il a pris une unité de temps dans la réalité, qui est une année à peu près, avec les deux grandes saisons. Après, le glissement de l'hiver, on ne prend plus les kayaks. L'hiver introduit le traîneau. Le traîneau emmène avec lui les chiens pour tirer les traîneaux. Et on verra que dans la montée dramatique, il y a une montée dramatique, hein, c'est pas fait comme ça, les chiens prennent de plus en plus d'importance. Ils arrivent à être de plus en plus menaçants. Voilà, ça c'est fou. Il y a des gros plans de chiens et à la fin, je voudrais revenir sur le montage final, l'igloo la nuit et les chiens dehors. Il y a beaucoup plus de plans qui sont consacrés aux chiens qu'à l'intérieur de l'igloo. Alors, tu me disais, pardon, je me suis égaré sur l'enfant. Oui, qu'elle ressort, c'est une espèce de naissance et c'est le premier baisement, les premiers soins d'une maman à son nourrisson. Mais à un moment donné, ça c'est la grande tentation de Flaherty, on va voir dans le film, hein. Mais je pense qu'il y a une influence chez lui, bon, on verra un plan évidente de Griffiths, et même de Griffiths influencé par les Frères Lumière, avec toutes ces scènes familiales, en tout cas, voilà. Et à un moment donné, lorsqu'on voit Nanook qui a repéré un trou de renard polaire, il s'enfouit dans le trou. Voilà. Hein. Bon, ça, à mes élèves, je n'ai jamais parlé de de séquences érotiques, mais enfin, il y a une espèce de pénétration de la nature vierge, et il ressort avec ce que la nature lui donne, ce que la nature enfante, c'est un petit renard polaire. C'est une scène, c'est pour ça que je parle d'érotisation continuelle de la nature par Flaherty. Mais ça, il ne l'a vu que quand il produisait des rushs, sinon c'est impossible, il n'a pas eu cette idée avant. Je veux dire, il y a une idée, à mon avis, assez géniale ici, dont il n'a pris conscience que parce qu'il se projetait ces rushs, et de 10 à 16, même quand il a commencé le tournage, il n'avait jamais pu le constater, parce que c'est au sens propre et figuré aveuglant. Et là, une fois qu'il a trouvé ça, eureka, là je suis sûr qu'il s'est dit, ça y est, là le film, je le tiens. Il n'avait jamais pris conscience. Et là, c'est le parti qui va tirer de ce qu'il observait dans ses rushs. Il n'avait jamais vu, mais qui l'avait vu ? La blancheur de la banquise. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ce qui fait que Nanook est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma sur la blancheur. Cette fois-ci, la banquise et la blancheur, il va lui donner une portée esthétique et méta-tribune physique qui n'avait absolument pas vu. La blancheur, une blancheur, c'est presque le film d'une sorte d'all-over, de monochrome blanc. Il y a des plans, c'est que ça. Il n'avait jamais compris ça, ça y est. Parce que à partir de la blancheur, c'est pour ça que j'ai mis, pour présenter le film, ma chemise de la Coste Blanche, bien sûr, c'est pour, je voulais m'accorder avec l'esthétique du film. Quand même, la Cinémathèque, on fait un petit effort. La blancheur de la blanquise, il va lui donner une valeur sensorielle qui fait que c'est pour ça que j'aime ce film. Il va l'associer à tout un camailleux synesthésique. Blancheur, silence. Ça va ensemble. Blancheur, silence. Il filme ses étendues. Blancheur, silence, infini. Et il va travailler avec ces trois notions. Film tellement blanc qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de ligne de démarcation, ceci est Canada, ou ça c'est ceci, ou ça c'est cela. Une espèce de blancheur qui va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que la blancheur, cette espèce de silence, que d'ailleurs la musique respecte, il n'y a pas silence parce que c'est un film muet. Il y a silence parce qu'il s'est cadré une banquise blanche. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une donnée immédiate de la nature, mais ce n'est pas une donnée immédiate de mise en scène. Tout ça, ça travaille. Et je vais dire après, qu'est-ce qu'il va éviter avec ça ? C'est il va aller vers une simplification maximale, sans surcharge, pour aller chercher sur cette blancheur, sur cet infini. Bon, on sait bien que le silence de ces espaces infinis ne nous laisse pas sans émotion. Il va essayer de prendre sur le fait de surprendre la vie à son origine même, dans sa plus grande simplicité. Voilà. D'abord, tout est sur des glissements horizontaux, tout est travaillé sur l'horizontale, sauf, évidemment, l'élément dramatique, quand même fondamental, l'homme qui est debout. Alors là, il y aura de la verticalité sur deux ou trois plans, je ne sais pas si le temps en parler, où là, il y a à un moment donné Nanook qui est dressé debout sur un mamelon de glace et pris en contre-plongée, et il a deux mains, à chaque main, il a les armes contondantes qui ont fait que, au moment où Flaherty filme dans cette contre-plongée, alors allons-y, là, il y a qu'il élève vers le ciel, il y a une élévation. La contradiction géniale de ce film, c'est qu'il a l'aspect objectif d'un documentaire, mais c'est aussi un film, on va dire, enfin, religieux. Enfin, il ne faut pas lésiner. Bon, il n'était pas croyant. Hein, c'est pas ça. Il est religieux parce qu'il a capté la création au moment où elle se fait. Là, on n'y coupe pas. Si vous pouvez être athée, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais là, non. Là, ça, c'est, il y a cette espèce de... Il est relié au sol. Et il filme le ciel, et il est entre ces deux éléments fondamentaux. Et lorsqu'il le filme, donc en 1921, C'est comme si Nanou, qui était le dernier maillon, le dernier chaînon d'une chaîne humaine, qui a commencé il y a des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Ils sont encore là. Comment sont-ils encore là? Parce que comment sont-ils arrivés en 1920 à être ce qu'ils sont, tels que les films? Alors au départ, peut-être que c'est d'autres théories, mais ils sont tous venus, les Indiens, tous. Ils sont partis du nord-est de la... chez Poutine, la Sibérie. Ils auraient passé l'étroit de Bering, donc, à contrario, le sens contraire, le passage du nord-est, au moment où la mer avait un étiage particulièrement bas, ils seraient passés presque à pied. Et moi, je rajoute, enfin, ça, je pense, j'en tire des conséquences par rapport à ce que filme Flaherty, c'est qu'ils n'ont pas pu quitter la Sibérie sans avoir domestiqué les loups pour en faire des chiens loups, pour tirer les traîneaux. Je pense que ça a dû prendre du temps, domestiquer des loups. Je pense que ça a dû... Parce que tel qu'on les voit là, c'est limite.
Ouais, sur des chiens loups.
Tel que c'est filmé. C'est limite. À un moment donné, si on ne donne pas à bouffer aux chiens, on sent très vite que les chiens vont savoir où trouver de la bouffe. Ah. Mais donc l'animal, je suis ami, l'animal, par ailleurs... Et dans toutes les relations dans le film, est une espèce d'intercesseur entre l'homme et la nature. Voilà. Et ça, c'est au cœur de la philosophie des Inuits, qu'il a essayé de filmer. Pardon, je vais dire un mot après.
Je reviens sur quelque chose que tu as évoqué, mais qui est très important, effectivement, c'est qu'au moment où Flaherty fait ce film, il a aussi dans l'esprit qu'il s'agit de rendre un mode de vie intemporel qui paradoxalement est en train de disparaître,
tout à fait.
Ah oui, ou a déjà quasi disparu. Bon. Et d'une certaine manière,
c'est bien
le projet cinématographique s'est d'éterniser par le cinéma quelque chose qui aurait vocation à rester comme ça pour les siècles des siècles, mais qui est en train de se transformer. On pourrait dire que d'une certaine manière, l'intrusion du gramophone au début est là pour dire, pour dater en quelque sorte des images de tout temps.
Donc, j'aime bien présenter un film avec toi, Bernard, parce qu'au moins, je sais que je ne pourrais pas passer à côté des idées principales. Tu me les rappelles. Premier petit point. Il faut le préciser. Alors, comment dire ça? Je vais développer sur deux, trois... Ce que tu dis, ça va être ce qui va organiser le regard fondateur de Flaherty. On va rester avec une loupe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il revient tourner ce film, il ne reconnaît plus les Inuits. Et il voit déjà les premiers ravages des Blancs, de la civilisation blanche nord-américaine, sur les Esquimaux. Alors, depuis longtemps, on ne les appelle pas Esquimaux. Esquimaux, c'est devenu péjoratif. Ça veut dire littéralement mangeur de viande crue. Cela dit, vous avez deux plans, deux donc, gros plans nécessaires, où on voit ici les Esquimaux bouffés devant des crues. Maintenant, il faut les appeler les Inuits. Ça veut dire l'homme par excellence, enfin, depuis les années 70. Hein, voilà. Même si vous relisez ce très beau livre de Jean Mallory, là, Les derniers rois de Thulé, par exemple, publié dans la collection Terre humaine chez Plomb, puisqu'il avait fondé cette collection, dans l'édition début de 70, ben, Mallory parle aussi des Esquimaux avec un E majuscule. Hein, mais c'est les mêmes. Hein. Les Esquimaux de Mallory, c'est l'ethnie générale s'appelle Itimiwit, et peut-être que Nanook ou les Tulés de Flaherty, de Mallory s'appellent les Inuits. Voilà. Mais c'est exactement les mêmes. Jean Mallory, c'est la bordure occidentale du Groenland. Des fois, quand on va à New York et qu'on voit le Groenland, on se penche pour essayer de voir les Inuits, mais je ne l'ai jamais vu. Tandis qu'ici, on est sur la bordure, on va dire, aussi. Enfin, orientale de la baie d'Hudson. Voilà. Donc, ce travail, pour lui, c'est, comment dire ça, ce sauvetage du temps va lui faire trouver, comment dire, un point de vue, mais là, un point de vue fondateur, un point de vue, c'est sérieux, là. C'est parce que il n'a pas vu ce qu'il voulait voir, c'est-à-dire ces Inuits mythiques, qu'il va remettre en scène Nanouk tel qu'on le voit aujourd'hui. Il y avait une course de vitesse, il est pris de court, et là, on est dans les années 60, on aimait parler de films tournés dans l'urgence. Là, c'est un film qui a été tourné dans l'urgence, le premier historiquement, c'est Nanouk. Il a voulu procéder à un sauvetage, mais là, c'était urgent, urgent, de cette ethnie, de cette peuplade dont il était tombé fou amoureux, qui était ravagée déjà par... Alors, mais les Américains savent parfaitement ça, c'est... ça ne fait pas forcément du bruit, il y a les armes à feu, mais surtout, c'est comme ça qu'ils ont aussi maîtrisé les Indiens, l'alcool. Donc, l'alcool faisait ses ravages, les armes à feu, ils s'en servaient pour chasser, mais il va donc remettre en scène. Alors, il ne s'est jamais posé le problème de documentaire fiction, en fait. Ça ne l'intéresse pas, cette question est sans intérêt. Il va essayer de filmer, comment dirais-je, un paradis perdu. Et il va le rattraper tant qu'il est encore temps. C'est un paradis perdu qui filme. Et là, il n'hésite pas à y aller franco de port. C'est-à-dire qu'il va filmer du mythe. Voilà. Ça, c'est très, très fort. Qui est le culot de filmer du mythe. Voilà. Alors, excusez-moi, je viens de parler de documentaire. Je vais en dire un mot après. Mais quand même, là, vous voyez, c'est autre chose. Enfin, je suis désolé, mais ça a quand même une toute autre portée. Et quand tu dis que, en quelque sorte, il essaie de le sauver du temps, hein, de ce temps qui passe, de ce temps qui corrode tout, hein, ce temps de la révolution industrielle, etc. En filmant du mythe, il va donner éternellement une mémoire à ces gens-là, à ces Inuits, à ces Esquimaux. Les Esquimaux vont se voir tels qu'ils ne se sont jamais vus et tels qu'ils ont été pendant des millénaires. Voilà. C'est extraordinaire comment il arrive à capter, à mettre en scène une mémoire. Mais ça, il faut mettre en scène. Une mémoire, ça se met en scène. Et je veux terminer. Il va s'y prendre autrement, parce que Flaherty dédouble absolument tout. Hein. Il y a une idée, mais vous avez la même idée, filme autrement. Hein. Tout est dédoublé, deux scènes d'igloo, le matin et le soir quand on se couche. Deux scènes de repas avec d'autres Inuits et en famille, etc. etc. Tout marche. Tout s'équilibre sur le 2, si on veut. Hein. On ne va pas faire le détail. Enfin. Mais il y a, et ça j'ai mis beaucoup de temps à le voir, et là c'est un de mes élèves qui m'a fait prendre conscience, hein, je ne l'avais jamais vu. Hein, c'est un jour, hein, un type qui avait vraiment des... Enfin, on va dire, un cas complexe, on va dire. Il m'a posé une question qui m'a pris de court et je n'ai pas pu répondre tout de suite. Il m'a dit à la fin, le dernier plan, il m'a dit, mais maître Nanouk, il est mort. Là, j'ai assez vite compris, j'ai commencé à avoir un peu de bouteille dans le métier, qu'il ne fallait surtout pas dire qu'il n'était pas mort. J'ai évité la gaffe pédagogique. Il y a un grand risque. Puis sur le champ, bon, parfois j'ai l'esprit rapide et pas tous les jours, mais je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'ai apprécié, il est mort. Donc il y a une affirmation, il est mort, mais dans la prosodie, il introduit le point d'interrogation. Donc il introduit une contradiction à l'intérieur du dernier plan qu'il a vu. En fin d'année, tu sais, je ne te l'avais pas dit, mais nom de Dieu. Nanouk, tu l'as beaucoup mieux compris que moi, tu sais. J'ai essayé de lui expliquer. Parce qu'effectivement, à la fin, alors je lui dis, on va regarder. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, on va regarder. Et puis, je dis, observant sa bouche, son nez, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il respire, très légèrement. Mais tu as raison, il s'endort. Et moi, tu as raison, tu as mieux vu que moi. Il est comme mort, pas mort, mais comme mort, tu vois. C'est-à-dire, c'est si vrai que, tu sais, quand on dort, on dit souvent la mort, on appelle, quand on ne veut pas parler de la mort directement, on l'appelle le grand sommeil. Voilà, mort et sommeil, c'est pareil. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour de nous. Ce soir, quand tu t'endormiras, tu me diras demain matin, on rêve, mais on se... Voilà, donc, Alors, je lui dis, c'est tourné quand, cette scène-là, du dernier plan ? Enfin, le jour ou la nuit ? Il dit, la nuit. Ben oui, la nuit, on dort, on s'allonge, voilà, c'est le grand sommeil, il dort, etc. Voilà. Et plus je lui ai répondu, plus j'ai pris conscience, à un moment donné, pour essayer de sortir un peu de la mort. Ben lui, quand il dit qu'il est mort, il a mille fois raison, mais je ne peux pas lui donner 100% raison, parce que sinon, je vais un petit peu trop vite dans son inconscient, quoi. C'est-à-dire, voilà, lui, il voit bien la mort, mais il fallait quand même que je passe pas des films à des élèves handicapés pour leur donner ce que ce film est, c'est-à-dire une ode à la vie. Voilà, c'est un hymne à la vie. C'est ça que je veux. Mais il n'y a pas de vie sans mort. Et je lui dis, mais t'as tellement raison que maintenant j'y pense. C'est le dernier plan du film, qui est par ailleurs un très beau masque mortuaire. C'est une magnifique façon de quitter Nanook, dans son sommeil, comme si le cinéaste discrètement se retirait. Les adieux entre Flaherty et Nanook, dans la réalité, ont été déchirants. Parce que Nanook a cru que Flaherty était là pour admettre un terme, qu'il allait vivre. Mais je lui dis, regarde bien. Bien sûr qu'il meurt la nuit, etc. Bon. Mais regarde bien. C'est un gros plan. Bon, il avait compris ça. Maintenant que tu me dis ça, j'y repense. On va regarder le début du film. Et le début du film, qu'est-ce que c'est ? Un gros plan de Nanook. Mais cette fois-ci, il fait jour. Il est debout. Il sourit. Deuxième plan, Nila. Elle est debout. Elle sourit. Voilà, tu vois, c'est la vie. C'est la vie. C'est si vrai que deux ou trois plans après, il y a papa, il y a maman. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Il me dit, ben, les enfants. Deux plans de mère, troisième plan, les enfants sont là. Et on assiste au premier accouchement dans le film. Il y en a plus de deux ou trois. Moi. C'est quand il arrive avec le kayak, il accoste, et là, on voit du trou qu'occupe le pagayeur sortir, voilà, du trou de maman, voilà, la famille, voilà. Alors, évidemment, ça n'a jamais été noté, parce qu'au début, il y a eu les puristes, les esprits grincheux qui ont dit « Ah, mais attention, c'est falsifié, c'est pas un vrai igloo !» Bon, celle-là, elle est passée comme lettre à la poste, mais elle est complètement reconstituée, tout simplement parce qu'il était impossible que tous ces personnages contiennent dans l'intérieur du kayak. Il y a quatre plans, si vous voulez, mais vous ne les voyez pas. Voilà, ça, c'est classique, parce qu'à un moment donné, il y a des plans, mais il garde l'axe. Et après, il met la caméra à droite, un mètre de côté, et de nouveaux plans, etc. Mais là, je lui dis, tu vois, c'est des naissances, c'est la vie. La vie repart, voilà. Mais c'est ça, le monde. On est, et un jour, on meurt, voilà. Et je raconte tout ça pour aller dans ton sens, c'est que, d'une certaine façon, Nanook est construit comme une espèce de roue, de cycle, si vous voulez, qui va de la mort à la vie, de la vie à la mort. Et avec cette construction, en partant d'abord de l'été, après l'hiver, et non pas l'inverse, parce que ça a ruiné le film, il arrache Nanook au pouvoir corrupteur du temps. Il le rend éternel. Voilà. Grâce à une mise en scène. Voilà, et pas grâce à des documentaires. Voilà. Et ça, c'est génial d'avoir pensé comme ça. Je trouve. Parce que je voudrais revenir sur la dernière séquence, si on a le temps, la séquence de montage. Voilà. Donc c'est ça. Cette espèce de cycle. Alors, autre intervention de Flaherty, je n'ai pas la réponse, mais quand Flaherty tourne Nanook, déjà, il observe que les derniers chamans sont partis, sont plus là. Ils sont remplacés par les premiers missionnaires chrétiens. Voilà. Et je me demande si ce cycle, cette roue, voilà, de la vie à la mort, etc., n'obéirait pas ou n'illustrerait pas, peut-être, en partie, une sorte de philosophie chamane, etc., avec le sommet, quand il est debout, Nanook, hein, avec il a les deux armes à la main, quoi, qui ont fait qu'ils ont pu vivre, hein, l'espèce de lame à couteau d'ivoire, et puis le harpon, quoi, voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Hein, voilà. Sinon, voilà. Donc je pense qu'en effet, pardon, dans cette mise en scène, il y a exactement ça. C'est ce que tu as souligné. C'est...
Oui, 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 mais tu as raison, que le dernier plan raccorde avec le premier et le premier avec le dernier, ouais. Ce qui fait qu'en formant un cercle, on échappe à la flèche du temps, littéralement.
Tout à fait, absolument. Littéralement. C'est pas rectiligne. C'est pas rectiligne. Il y a une sorte d'horizontalité, mais cette horizontalité, elle est reprise inlassablement. Et là, il a sauvé ce qu'il a pu sauver. Parce que là, la chasse aux morses, elle ne se faisait plus comme ça. Ça faisait 30 ans qu'elle se faisait au fusil. Il va falloir faire le coup avec dans l'homme d'Aran. L'homme d'Aran, la chasse aux pèlerins, personne ne savait ce que c'était. Il avait vu un vieux de 90 ans qui lui avait raconté que de son temps, on pêchait comme ça le requin pèlerin. Les chasseurs, en 32-34, les jeunes chasseurs qui sont sur l'écran ne savaient même pas qu'on pêchait comme ça autrefois. Il a fallu refaire les mêmes outils. Et après la journée de pêche, dans l'île d'Aran, les pêcheurs s'entraînaient à pêcher comme il y a 80 ans.
C'est-à-dire qu'en fait, le film, celui-ci, mais d'autres, hein, après lui, deviennent littéralement des conservatoires de coutumes, de pratiques, de cultures perdues. Voilà. Et que, effectivement, le cinéma éternise ce qui, par ailleurs, a disparu. Je pense à un film qui doit passer dans la rétrospective documentaire et qui doit passer dans les jours qui viennent. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il s'appelle Pour la suite du monde. Ah. Et c'est le film de Pierre Perrault et Michel Brault.
Très connu.
Début des années 60, et c'est un film où on reconstitue la chasse aux marsouins.
Tout à fait.
Une technique de pêche qui avait disparu depuis 30 ou 40 ans et que littéralement le film fait revivre et fait revenir et évidemment enregistre en même temps qu'il la ressuscite.
Non, mais il a fait des petits, Flair.
C'est ça.
Il a fait des petits.
Ah,
ouais, des petits qui sont devenus des grands. Hein, ça, voilà. C'est comme ça.
C'est bien. On n'a pas parlé de documentaire fiction, mais on dit à quel point ce film est matriciel.
Tout à fait.
Ce film, alors il y a beaucoup d'enfantement, comme tu dis, dans le film, mais le film lui-même est une matrice qui a produit énormément de films par la suite, sous l'effet des pouvoirs du cinéma, qui sont ceux de l'enregistrement et de la conservation et de la restitution par la projection.
Je veux dire, une autre matrice, alors à partir du moment où il avait trouvé que c'était la famille et qui allait être le nœud, enfin, le nœud dramatique de sa mise en scène, il va inventer, entre guillemets, une thématique qui va devenir américanissime. Et là, je lance déjà la rétrospective de Raoul Walsh, presque
à la rentrée,
mon intervention sur Wyatt. La thématique américanissime, c'est qu'il va filmer un petit collectif humain qui se déplace en permanence dans un environnement hostile. Voilà. Bon, là, heureusement qu'il y avait la guerre du Vietnam aux Américains pour nous reprendre tout ça, parce que sinon, même la guerre de 45, hein, objectivement à The Wall, c'est exactement la même thématique. Pareil, ça n'a pas bougé dans millimètre. Voilà. Et ça, ce que les cinéastes postérieurs à Flaherty vont comprendre, c'est que ça va leur permettre une dramatisation de l'espace. Parce que le danger est partout. Voilà. Donc ça va soutenir l'intérêt du spectateur. Voilà.
Peut-être une dernière chose qu'on pourrait évoquer pour peut-être conclure, c'est parce que ça pose à la fois des questions de mise en scène et ça renseigne sur le tournage du film, c'est l'igloo. C'est la fabrication, la fabrication de l'igloo, ou du moins ce qui se passe autour de l'igloo, et peut-être on conclura avec ça, sauf si quelqu'un ou quelqu'une veut absolument poser une question ou avoir une interprétation ou un retour de la part de Pierre.
L'igloo, voilà. Bon.
Fait court.
Oui, c'est ça, mais à ce moment-là, on ne parle pas de l'igloo, alors. L'igloo, dans la construction arrive une espèce de position centrale du film. Flaherty est très convaincant, hein, c'est peut-être une métaphore de ce qu'on montage en film, hein, plan par plan. Hein, vous voyez, les parpaings sont quand même bien, bien découpés, s'ajustent pour nous donner la base même de toute architecture, jusqu'à aujourd'hui, 2023. C'est-à-dire que dans toute architecture, même pour Monsieur Nouveau, il faut bien une porte pour entrer et sortir. Nous sommes d'accord. Et puis il faut bien, là on va arriver vers la métaphysique, il faut bien qu'il y ait une fenêtre pour permettre à la lumière d'entrer. Nous sommes d'accord. Voilà. L'igloo capte et déjà organise cette mise en forme de la matière. On peut apprécier la forme, je vais y revenir. Donc l'igloo a été contesté au départ parce que donc ceux qui disent c'est un faux documentaire, ils ont dit ah oui mais l'igloo c'est truqué parce que on a appris que pour les deux scènes d'igloo qui sont des scènes intérieures, il avait fait construire un igloo. Un vrai igloo, c'est 4 mètres de diamètre. Voilà. Donc, on ne peut pas tous rentrer. Et puis, surtout, le dôme est fermé, on ne peut pas éclairer. Donc, il a fait construire un igloo de 8 mètres de diamètre. Il a coupé le dôme pour que la caméra, au moins, avec Flaherty, entre dans l'espace de l'igloo. Et surtout, surtout que la lumière passe à travers le dôme coupé pour éclairer. Et ça, ça va être très, très, très important parce que là, quand je parlais de blancheur, d'infini, de silence, etc., de vie surprise à son origine, sur une espèce de, voilà, de banquise étale, il va mettre en valeur, en scène, justement, la lumière à partir de la construction de l'igloo, quand Nanook va découper un parpaing translucide qui va servir de fenêtre. Après, il découpe un parpaing de glace qui colle perpendiculairement à la fenêtre. Et puis, il regarde comme un chauffe-opérateur où en est le soleil aujourd'hui. Et c'est une façon de mettre en scène la lumière. Comme on le sait, le soleil ne filme pas directement, mais on ne regarde pas directement, on le sait, au moins depuis le XVIIe siècle ici en France, pas plus que la mort. Donc, il met en jeu cette lumière. Mais là, alors, donnez-moi des minutes pour dire quelle valeur Flaherty peut-il accorder à cette lumière. C'est vraiment... ça, c'est formidable, je veux dire. Bon. Là, dans une espèce de profonde philosophie de Flaherty, c'est Nanook, bon, il a repoussé l'influence d'Hollywood. Mais il repousse aussi, j'en viens à la lumière, le cinéma dominant de l'époque, qu'il a vu à New York, c'est sûr, c'est-à-dire l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand implique le studio, un studio équipé en électricité, l'électricité qui permet de travailler le conflit ombre et lumière sur toutes ses formes. Là, il n'y a pas d'électricité. Il balaye dans revers de main toute la quincaillerie du cinéma. Et il va éclairer son film. Il va mettre son film sous l'égide de l'astre des astres, le soleil. Le soleil, origine de toute vie. Le soleil, origine de toute philosophie. C'est le soleil et lui seul qui éclaire ce film. Et là, on peut dire, alors le soleil, allez-y, si vous pensez que c'est Dieu, c'est pas impossible. Tout part de la lumière et tout revient à la lumière. Tout part de Dieu et revient à Dieu. Sur cette banquise virginale, je pense que là, Flaherty, ça y est, commence à trouver un petit peu son sens. Voilà. Flaherty commence à s'inventer. Je trouve que cette très belle séquence de la lumière avait marqué un de mes élèves qui avait une mémoire immédiate nulle. C'était, il fallait remplir tous les matins avec lui le tonneau percé des Danaïdes. Pendant une année, il ne m'a rien dit. Il était absolument rien. Voilà, il ne parlait pas, aucune expression. Je n'arrivais à rien, il faisait des puzzles, des dessins, mais aucun échange verbal. À la rentrée d'après, le premier jour, il est là, il y a des nouveaux, on s'assoit, on se dit bonjour, il lève la main. Il n'avait jamais levé la main. Et il me dit, Pierre, je voudrais parler. Je voudrais parler, Sylvester, mais... Je parle parce qu'on me paie, mais sinon... Je t'en prie. Et il me dit, mais je veux parler devant le tableau, devant la classe, il me dit. Ah, t'es sidéré. Mais viens. Et il dit, bonjour, je veux parler aux nouveaux et leur dire ceci. Dans cette classe, on voit Nanook l'Esquimau. Mais ce n'est pas tout. Et je vais vous raconter Nanook l'Esquimau. Alors là, mes sens s'éveillent. C'est-à-dire, ah, c'était le jour de la rentrée. Il y a des jours dans la vie comme ça, qui sont un peu plus fulgurants que les autres, on va dire. Bon, j'en ai connu un. Et là, qu'est-ce qu'il a choisi? Eh bien, il a mimé par le menu, avec le maximum de précision, lui qui n'avait aucune mémoire immédiate, quand Nanook s'approche, découpe le bloc translucide et la fenêtre, il montre comment il ajuste en vieux peintre la fenêtre dans le trou du igloo. Il redécoupe, c'est l'enfant qui mime, le parpaing de glace, il le met perpendiculairement, et là il regarde le plafonnier, il cligne, mais c'était le matin, il n'y avait pas de lumière, il dit pardon, un instant, il va allumer le plafonnier, il cligne dans le plafonnet et il dit, voilà la lumière, où elle va. Et il dit aux autres, c'est ça Nanouk. Bon, là j'ai dit, mon gars, là.
Tu m'as fait mon année.
Voilà. Alors, évidemment, j'ai compris, si vous voulez. Mais que lui, qui était d'une fratrie de 4 ou 5 enfants, n'avait pas de papa, les 4 ou 5 frères et sœurs avaient 4 ou 5 pères différents, soit intéressé par Nanouk, quand même, on me tire, le père assume. Et qu'en plus, il apporte de la lumière, tel titan qui, voilà, qui capte les énergies du monde, ça, c'est extraordinaire. À partir de là, tout a changé. Voilà, il a appris à lire et à écrire. Parce qu'à ce moment-là, moi, je l'ai vu autrement. On a commencé à discuter autrement. Je me dis, il a compris le film. Bien sûr, il a compris. Mais il a compris le film. 9 Pierre. Mois, il était... Il ne parlait pas. Et moi, je n'avais pas vu tout ça. Oui, parce que quand on est enseignant laïque, on perd une dimension du monde. Mais c'est comme il y en a un autre, une fois, un gros dur. Hein, les parents étaient en prison parce qu'ils avaient attaqué une banque dans le 20e arrondissement. Donc, il avait 12 ans, il ne devait pas être là. Je lui ai fait le test de Nanouk. Et il m'a dit, c'était intéressant. Et il m'a dit, après, c'est une question, là aussi, sur le moment, ce n'est pas facile à répondre. Il m'a dit, mais maître, il m'a dit, un père, il peut jouer avec ses enfants. Alors je lui ai dit, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de jouer avec ses enfants. Enfin bon, il n'y a pas de loi qui oblige un papa à jouer avec ses enfants. Mais après tout, s'il a le temps, s'il y pense, pourquoi pas. Voilà. Parce que évidemment, là, ce qui l'avait frappé, c'est quand Nanouk sculpte le petit ours. On perd la chasse à l'ours, c'est véritable, mais je pense qu'on ne perd pas au change avec cette merveilleuse séquence où il sculpte comme un jouet ce petit ours. Il
sculpte en neige un petit voilà. ours pour apprendre.
Voilà, dans cette société, bon, où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, hein, bien sûr, on voit, hein, ce n'est pas une société où, où on se révolte contre le père. Là, parce que bien sûr, l'enfant ne prend pas l'arc et la flèche, il ne vise pas le visage du papa. Donc, il vise bien l'ours. Bon. Mais là, c'est assez beau parce qu'il y a une espèce de micro, de court-circuit temporel. Parce qu'à la fois, ça annonce le destin futur de l'enfant qui va devenir chasseur comme son père. Mais Nanouk Flaherty sait bien que l'avenir, c'est pas celui idéalement qu'il aurait voulu. Mais en même temps, ça renvoie aussi à un travail de transmission du passé. C'est-à-dire qu'on peut penser que Nanouk père, enfant, a été aussi intronisé à ce monde symbolique et imaginaire qu'est la chasse et la pêche par des adultes, parents, etc., qui l'ont commencé par le jeu. Là, il y a une philosophie du jeu qui est exceptionnelle. Si on veut réfléchir
sur le jeu. C'est vrai que le film, de ce point de vue-là, et on va en terminer, je sais, Pierre, que tu me diras quand on aura fini que tu n'as pas dit la moitié de ce que tu voulais dire. Donc, d'emblée, ça, c'est acquis. Mais ce qui est vrai, c'est que le film porte en lui, comme tu l'as dit, en se focalisant sur le groupe ou la famille, quelque chose de très structurant. Voilà. Et que tu le dis dans un de tes textes, je ne sais plus lequel, dans un de tes textes sur Nanouk, tu dis aussi cette chose très belle, c'est que les enfants qui voient ce film découvrent que quand le père s'absente, il pense encore à eux, puisque quand il va chasser, c'est pour nourrir sa famille et donc pour nourrir l'enfant. Et que le film donne à voir que l'absence n'est pas une absence de pensée, au contraire.
Tout à fait.
Et ça, c'est magnifique.
Là, on va revenir au style précis de Flaherty, mais si vous pensez à la pêche au phoque, par exemple, donc il est en train de... Là aussi, c'est un Inuit qui tire de l'autre côté de la corde, parce que dans la réalité, une pêche au phoque, ça prend 2 jours ou 4 ou 5 heures, donc ça ne peut pas le filmer. Mais à un moment donné... Quand il est presque un échec, il n'arrive pas à sortir hors de l'eau le phoque, qui est le gibier par excellence des Inuits, parce que c'est le gibier qu'on capture l'hiver, là où ils ont très faim. Donc, l'ours, c'est le roi, mais le gibier le plus familier, le plus aimé, c'est le phoque, parce qu'il leur donne à bouffer l'hiver. À un moment donné, il y a un changement très léger d'axe. Et je regardais, il n'y a pas un panneau ascendant, mais on voit sur la ligne d'horizon la famille qui vient l'aider. Et là, la famille et les enfants assistent et terminent et accomplissent ce que le père a commencé tout seul. Un mot, c'est pour la stylistique générale, ce film est toujours filmé du côté du quatrième côté absent, presque toutes les beaucoup la pêche au saumon, ça, on reste sur le même axe, sauf que le mur du fond a disparu et est devenu la ligne d'horizon. Et vous verrez la répétition, le rythme, la sanction de Nanook, c'est toujours de partir d'un personnage proche de la caméra et de s'éloigner vers la profondeur de champ. Ça porte ce mouvement, cet élan, porte à la fois, je dirais, c'est ce qu'il a filmé sans le savoir, je vais terminer là-dessus, à la fois l'impulsion de la vie, c'est nécessaire à la vie d'aller chercher au-delà de l'horizon. D'abord, il y a une curiosité. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon ? Ça devient là, pour le coup, question lourde de sens. Mais c'est de ce même mouvement qui fera mourir Nanook. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un panoramique qui va rejoindre avec le kayak ses amis qui vont chercher, pêcher le morse. Là, il fume la caméra, le cadre anthropologique de Flaherty enregistre l'impulsion phénoménologique de Nanook. C'est un moment bouleversant pour moi, cette espèce d'énergie de vie, mais il n'y a pas de vie sans la mort. C'est ce même mouvement de vie qui va faire mourir Flaherty, qui va faire mourir Nanook, mais 2 ans après le tournage. Voilà. Ils avaient faim, il est parti dans le nord, 600 km dans le nord, il savait qu'il allait croiser une transhumance de rennes. Là, il y a 2 hypothèses. Pour certains, les rennes sont passées un peu plus au nord à cause d'une variation climatique. L'explication la plus commune, c'est qu'il avait bien calculé le carrefour, le croisement avec le troupeau de rennes, mais à ce moment-là, les vents et de subis brouillard assez épais ont fait qu'il n'a pas vu et il est mort. Voilà. Donc, il est mort en 10 minutes, voilà. Sa famille aussi. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça. On ne peut pas tenir plus que lui.
Bon, Pierre, vous ne m'en voudrez pas si je ne vous donne pas la parole ou si je ne vous ai pas donné la parole, mais vous avez compris. Et que si vous voulez poser question ou continuer à discuter dans la salle ou hors de la salle avec Pierre Gabaston, c'est tout à fait possible, bien sûr. Pierre Gabaston, mille merci d'avoir accompagné cette séance.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.